dans cette rue, la rue Tobisug, son premier nom, c'était la rue Bleue. Il y a également l'impasse Bleue qui est toujours là d'ailleurs, elle est derrière. Hein. C'est l'impasse qui est juste parallèle à la rue Tobisug. Et donc la rue Bleue, en fait, ça a été remis au goût du jour par Jean Cotrecci, l'écrivain marseillais, là, qui est historien allemand. Je crois qu'il est historien et romancier, je ne me souviens plus en fait. Ouais. Et il a écrit, je ne me souviens plus l'intitulé exact, c'est Crime dans la rue Bleue. Donc, c'était l'histoire d'un crime, d'un meurtre qui a eu lieu dans la rue Bleue, qu'il fallait élucider sous le Deuxième Empire, avec les policiers de l'époque, les personnages de l'époque, les décors de l'époque. Donc, ça nous replonge plus d'un siècle en arrière. Voilà. Après la mort de Clovis-Hug, elle a été rebaptisée rue Clovis-Hug.
Début
20e. Début 20e, de l'année 1900, quoi, début 20e. Elle a été rebaptisée rue Clovis-Hug, je ne sais pas exactement quand, à l'honneur de Clovis-Hug, qui n'était pas marseillais, il n'est pas né à Marseille, mais il a quand même vécu une bonne partie de sa vie à Marseille. Il a vécu en prison à Marseille, et il a... Enfin, il a complètement intégré la culture, le patrimoine de Marseille, quoi. Il a participé à la commune de Marseille, aux deux communes de Marseille, donc. La commune qui a précédé, la première commune qui a précédé la commune de Paris, je crois que c'est en septembre, octobre, novembre 1870, et la deuxième commune, en même temps, dans les mêmes parallèles, la commune de Paris. Voilà. Il n'a pas été très actif, mais par contre, il écrivait énormément. Et il a eu des postes, malgré tout, de responsabilité au sein de la commune, à côté de Gaston Crémieux. Et mais il n'a pas été un grand meneur politique. Mais en tout cas, il était un journaliste pertinent et un journaliste corrosif, si bien que c'est à cause d'un de ses articles qu'il a été emprisonné, qu'il a fait 4 ans de prison. Une partie au Fort Saint-Nicolas, une partie, il y avait une prison Saint-Pierre. Et après, il a terminé à Tours, je crois que c'est à Tours qu'il a terminé son incarcération. Et c'est en prison qu'il s'est révélé, alors qu'avant il était un excellent journaliste, pertinent, c'est en prison qu'il s'est révélé un excellent poète. Il a écrit toutes ses poésies, chansons de prisonniers, entre autres, chansons de prisonniers, je ne sais plus, la chanson de prisonniers, voilà. Victor Hugo disait de lui, et ça, ça n'est pas dans la biographie de Jean-Claude Izot. Victor Hugo disait de lui qu'il avait... Il avait une sorte de talent naturel, des facilités, des prédispositions à l'écriture. Et il avait trop de facilité à l'écriture, si bien qu'il s'est laissé aller à la facilité. Et finalement, il n'a pas marqué l'histoire littéraire française. Il n'a pas été un auteur d'envergure comme Zola ou d'autres de contemporains. Alors qu'il en avait la trempe, mais c'est parce qu'il s'est laissé aller à sa prédisposition naturelle sans travail.
Quand on leur dit « J'ai sans relâche, dès l'appel du coq matinal, largement accompli ma tâche dans le grand œuvre sociale, mais voilà que ma tête blanche se refroidit et qu'elle penche comme un fruit qu'a mûri l'été », ils vous répondent « Prends courage, ton bras se refuse à l'ouvrage, nous te ferons la charité ». La charité ? Non pas. Nous sommes sous la vaste clarté des cieux, debout comme les autres hommes, et nés de la femme comme eux. La même éternelle matière sentira la même poussière enfanter un germe nouveau quand la mort, muette et glacée, aura fait taire la pensée qui vibre dans notre cerveau. Qui a donc lu dans les étoiles que sans jamais se reposer, le vent doit déchirer nos voiles et sur les écueils nous briser, qu'il faut la tempête à notre onde ? Qu'il est des êtres dans le monde marqués au front pour le malheur, et qu'au moment où sur la terre on boit le bonheur à plein verre, nous n'avons pas droit au bonheur ? La nature, dans l'héritage qu'elle transmit au genre humain, nous accorda-t-elle en partage les seules ronces du chemin ? Au soleil, chacun a sa place. Le manteau d'un heureux qui passe offense notre nudité. La terre est la commune mère, et faire l'aumône à son frère, c'est nier la fraternité. Et... que nous parle-t-on encore de la rayonnante pitié que le vieux monde qui vit éclore dans le sang du crucifié ? A-t-il donc été le seul juste ? Croit-on que le progrès auguste au pied du gibet s'arrêta et que l'esprit n'a d'autre règle que de balancer son vol d'aigle sur les hauteurs du Golgotha ? Tout ce qu'affirme le génie dans ses systèmes éclatants concourt à l'immense harmonie à travers la chaîne des temps. À chaque siècle, un Christ arrive qui s'assied, immortels convives au banquet de l'humanité. Et les uns écrivent « Justice !» ou les autres écrivaient « Sacrifice !» Renoncement et pauvreté. Quand la bise ébranle la porte du pauvre que l'hiver atteint, certes, il est bon qu'on apporte une branche au foyer éteint. Il est bon qu'une jeune fille aille de famille en famille pleurer au chevet des grabats qu'un aïeul mourant la bénisse et que Vincent de Paul surgisse des petits-enfants dans les bras. Mais à quoi bon sur les problèmes nous pencher sans cesse? À quoi bon toujours construire des systèmes dans le granit de la raison? À quoi bon pour la République tomber comme un héros antique dans le roulement des tambours si la charité s'éternise, s'il n'est plus de terre promise et s'il est des pauvres, toujours? Ah, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, nous voulons, ô société, trouver contre le vent qui passe un abri dans l'égalité. Comme les heureux et les sages, nous voulons sous nos verts ombrages écouter le chant d'un oiseau, nous faire un bonheur sans mélange et nous aussi dans de beaux langes endormir nos fils au berceau. Nous voulons, créant sans secousse l'apaisement universel, sur les charniers où l'herbe pousse bâtir l'atelier fraternel. Nous voulons l'aurore nouvelle, l'amour ouvrant partout son aile. Le ciel plus doux, l'homme meilleur, et dans l'existence éphémère ce que l'on appelle la chimère de notre siècle travailleur. Nous voulons aimer, chanter, vivre, vider les coupes de l'espoir, apprendre à lire dans le livre de la science et du devoir. Et nous voulons, si nos épouses qui ont rêvé de rendre jalouses les étoiles des firmaments, que dans le reflet des dentelles s'illuminent aussi pour elles des couronnes de diamants. Le droit au bonheur, à Auguste Sorbier, prison cellulaire de Tours, novembre 1872, poème de prison.
Après, dans les années 80, il avait pris un peu d'envergure, un peu d'épaisseur, et il a mené un combat politique. D'ailleurs, il a été député de Marseille à une certaine époque, député de Marseille. Il a été député de Paris aussi. Et il était toujours dans la mouvance de l'époque, la mouvance de la première, puis de la seconde internationale, la première internationale blanquiste, la seconde internationale socialiste, donc les premiers partis ouvriers. Et il a mené un combat anticlérical, forcément, en tant que radical, puis socialiste, un combat anticlérical. Et il a œuvré, il s'est battu dans le cadre associatif pour promouvoir un baptême civil. C'est amusant l'idée. Bon, promouvoir un baptême civil, c'est une idée qui est très originale. Hein. Très originale. Imagine, tu sais que le baptême, dans la mythologie catholique, c'est qu'on te reconnaît comme appartenant à la grande communauté des croyants. Tu appartiens à la grande communauté des croyants. Tu es baptisé, donc tu appartiens à la grande communauté des croyants. Et donc le baptême civil, c'est quoi si ce n'est appartenir à la grande communauté des citoyens ou des hommes libres? Donc je trouve que la symbolique, elle est assez à creuser, c'est un truc à creuser ça. La grande communauté des citoyens par un baptême civil. C'est amusant ça. Hein.